55 pour le CF Montréal qui fête son 30e anniversaire officiellement cette fin de semaine. La folie totale à Naples avec un premier titre en 33 ans. Et le futur de Lionel Messi qui est plus incertain que jamais. On ne pouvait pas demander mieux pour le grand retour de Loin de s'en foutre. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Sidney Faux. Il y a un certain Patrice Bernier qui viendra nous rejoindre dans quelques minutes. Sid, comment ça va? Fais un bail?
Très bien, merci beaucoup, Oli.
T'es-tu fait demander quelques fois au cours des derniers mois si Loin de s'en foutre revenait?
Un petit peu.
Ouais, ben, moi aussi, à commencer par un passage du côté de l'UQAM où j'ai été invité à participer à un travail de recherche, on peut peut-être le présenter comme ça, avec une fausse nouvelle qui était présentée, qui concernait le CF Montréal, le Paris Saint-Germain, je répète, une fausse nouvelle, le Paris Saint-Germain, qui débarquait avec des étudiants qui nous posaient des questions. Une des questions a été, Loin de s'en foutre, y a-tu possibilité de ramener ça, s'il vous plaît? Ben voilà, c'est fait. On va rejoindre Patrice tout à l'heure, mais d'abord, Sid, on commence par quoi? La folie de Naples ou le CF Montréal qui est 55?
Non, le CF Montréal qui est 55.
Rappelles-tu les 6 défaites en 7 matchs et 6 défaites par blanchissage? Il me semble que ça fait quoi? Ça fait 3 ans de ça?
Et des 17 buts encaissés en 7 matchs par le CF Montréal qui a eu un début de saison catastrophique. Et même le match contre l'Union de Philadelphie qu'on pensait être le déclic ne l'a pas été. Et puis, tu sais, il y a cette compétition-là qu'on appelle le championnat canadien, qu'on comprenait un petit peu de revers et qui a été finalement le moment où la saison est partie pour le CF Montréal, parce que cette victoire à Vaughan, avec l'échange de Kamal Miller pour Duke Elassiter, ont été les éléments déclencheurs d'un nouveau, un renouveau, je te dirais même, pour le CF Montréal.
Hernan Losada, avant ce match-là de championnat canadien, moi j'étais le premier à le dire, pas que Losada devait quitter, mais que tu pouvais pas passer à côté de ton match face à Vaughan à Drury, parce que si tu passais à côté de ce match-là, c'était quelques jours après la défaite face au DC United, qui était venu quoi le lendemain de l'arrivée de Bryce Duke et Ariel Lasseter et surtout le départ de Kamal Miller. Au final, tu es parti sur une séquence extraordinaire considérant les circonstances du début de saison. Est-ce que c'est cet échange-là qui change tout? Est-ce que c'est ça part de quoi?
Oui, ça change tout. Pourquoi? Parce que le visage affiché contre Vancouver et contre New England, où tu prends 9-0 et que tu as vraiment un désengagement total de l'équipe.
Un feeling d'avoir jeté la serviette.
Exactement, et qui est symbolisé par des joueurs qui ont la tête ailleurs. Mm-hmm. De pouvoir et décider d'échanger un de tes leaders de l'équipe, c'est un message très fort qui a été envoyé au groupe. Et je pense essentiellement que sans pourtant dire que la faute est sur les épaules de Kamal Miller, loin de là, mais cette décision là, oui, est un point tournant certain. Oli, moi j'aimerais évacuer quelque chose. On a parlé, oui, comme peut-être du licenciement éventuel d'un Losada. Cette semaine, Hendrickson s'est fait licencier. Mm-hmm. Cette semaine, Struber du côté de New York s'est fait changer. Ouais. C'est-à-dire que dans cette semaine-là, au bout de 10 matchs, des organisations décident que on n'est pas capable de continuer avec un coach en place. Donc quand il y avait des discussions au sujet de Losada, eh ben il y a 4 matchs seulement, parce que c'est rien 4 matchs. C'est beaucoup, mais à la fois c'est rien. Et dans deux organisations, dans l'Est, ont décidé de se départir du coach. Donc ce n'était pas des débats qui étaient, je pense, prématurés. Ils étaient en plein dedans et des résultats de Losada.
Ben pour moi, ce n'était pas prématuré, pas en raison des résultats, en raison de la manière.
Ah oui.
Tu sais, de la manière du côté des joueurs, parce que tu avais des joueurs qui semblaient dire « on ne croit plus au projet » ou « on ne croit pas au projet de cette année ». Puis là, c'est tu lis entre les lignes, mais quand tu as des joueurs qui sortent, qui disent « ouais, ben c'est pas comme l'an dernier, il y a des jeunes, on prendrait à peu près n'importe quel renfort qui débarquait et on l'accueillerait à bras ouverts », c'est pas un message qui est particulièrement inspirant. Puis ça venait de vétérans, de cadres, de Wanyama, de Rudy Camacho, de Joel Waterman, si on le considère comme un cadre parce qu'il a été un joueur quasi indélogeable l'an dernier. C'est le fait que quand cette équipe-là était sur le terrain face à Vancouver, à 1-0, puis c'est une défaite de 5-0 au final, mais à 1-0, c'était terminé. Puis il n'y avait pas d'idée. Tu ne comprenais pas. Est-ce qu'on veut renverser le jeu? Est-ce qu'on veut y aller doucement? Est-ce qu'on veut y aller rapidement? Est-ce qu'on ressemble à Wilfried Nancy? Est-ce que non? Et tu avais un Hernan Losada en plus qui disait « Cette équipe-là est principalement construite pour faire ce que Nancy faisait l'an dernier. Moi, je ne veux pas jouer de la même manière. » OK, mais tu veux jouer comment? Et c'est ça qu'on ne voyait pas. C'est ça qui était le plus inquiétant. Et c'est ça qui a beaucoup changé au cours des derniers matchs.
Et tu avais deux nouveaux joueurs, en Ofor et Herrera, qui te disent, ben, y a un décalage énorme entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on travaille à l'entraînement et ce qu'on voit en match. Et donc là, tu avais les vétérans d'un côté et les nouveaux de l'autre, ce petit côté un petit peu maison des fous. Et là, on a réussi à remettre tout le monde sur la même longueur d'onde, et ça se voit dans l'attitude, dans le comportement, dans l'énergie, dans tous les statistiques avancées, que cette équipe-là n'est pas du tout la même, et malgré l'opposition qui est relativement à la portée du CF Montréal.
On va avoir l'occasion de reparler du 11 montréalais au cours de l'émission. On va se pencher maintenant sur ce qui se passe du côté de l'Europe. Le Real Madrid largué en Liga, mais un match de 1-1 lors du match aller face à Manchester City en Ligue des Champions avec un but de Vinicius Junior. Est-ce que c'est un joueur, sachant que Benzema est là, Cristiano Ronaldo est passé par là aussi, au milieu de terrain, tu as des Modric, des joueurs qui sont des monuments. Est-ce qu'il est reconnu à sa juste valeur?
Non, loin de là. Vinicius, qui a terminé 8e au classement du Ballon d'Or l'an dernier, tout simplement scandaleux à la hauteur de la saison qu'il connaît. On sait que la machine médiatique et aussi la communauté de fans étaient très justement sur le cas de Karim Benzema. Mais Vinicius est passé complètement à côté des radars. Et cette année encore, c'est celui qui fait le plus de dribbles en Liga. C'est celui qui amène le plus d'actions vers un tir. C'est un joueur qui a impliqué 10 passes, 9 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 15 buts et passe en 7 matchs. C'est énorme ce que fait Vinicius. Mmh. Et je pense qu'au-delà de même du Real Madrid, je pense que Vinicius, il est dans un débat qu'on essaye de nous imposer et qui, je comprends pourquoi, mais Haaland, Mbappé, Vinicius, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on le mette à la même hauteur que les deux autres phénomènes. Il a 22 ans, il est brésilien, il a du style, il a tout pour réussir. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que Vinicius soit à sa juste valeur, parce que là, il est largement sous-côté.
Ouais, ben c'est intéressant, parce que j'allais dire, peut-être que c'est les insuccès de l'équipe nationale brésilienne sur les dernières années qui minent Vinicius. En même temps, on pourrait dire la même chose d'Haaland, qui existe pas vraiment sur la scène internationale. En fait, la question est de savoir, est-ce que tu es mieux d'être dans des gros tournois et être absent d'un gros tournoi, comme ça tu peux pas te planter, ou faire partie d'une équipe qui se plante dans un gros tournoi comme ça a été le cas avec le Brésil?
On verra avec le prochain Ballon d'Or, parce que tu auras la réponse de l'importance d'un gros tournoi et d'une saison en championnat assez médiocre.
On a eu la réponse quand même assez claire, merci, de l'importance d'un premier titre en 33 ans. Tu sais, sachant que ça se passe à Naples, sachant qu'il y a Diego Maradona, 33 ans, l'âge du Christ, je veux dire, ça s'invente pas. Est-ce qu'ils ont arrêté de faire péter les feux d'artifice à Naples? J'en parlais avec les collègues de RDS, Yannick et Fred. Quand j'ai vu les premières images, je sais pas si tu te souviens, mais la guerre en Irak au début des années 2000, là, c'est une tangente un peu weird que je prends, mais c'était la première fois où on voyait des images de soir, d'attaques qui étaient presque en direct. Et quand j'ai vu, puis ça pétait tout partout, il y avait des flashs de lumière dans un paysage principalement sombre, quand j'ai vu les images à Naples, mon premier réflexe a été, c'est des images d'Ukraine ou c'est des images qui viennent de combats. Puis là, j'ai fait, attends, il y a de la couleur, là. C'est pas juste du feu. J'ai jamais vu des scènes comme celle-là.
Impressionnant, vraiment la foule en liesse. Et encore, ils n'ont pas fêté officiellement le titre. Là, ils l'ont, c'est acquis. Mais les fêtes vont continuer vraiment du côté de Napoli. C'est une ville qui pue le foot. Quoi. C'est incroyable à quel point il y a une ferveur. C'est la seule ville où ça fait du sens de dire qu'il y a un Géorgien, un Coréen et un Nigérian qui vont dans un bar.
Il n'y a pas une joke à la fin.
Il n'y a pas une joke à la fin, parce que vous avez compris qu'il y a des joueurs clés de partout qui sont venus pour faire ce titre-là. Et Naples est assurément la plus belle équipe. C'est pas la plus forte, sûrement à ce titre-là, mais la plus belle équipe d'Europe cette année, c'est le Napoli.
Ouais, et après être passé à côté de sa Ligue des Champions, ben ça met peut-être un petit ou très très gros baume sur les plaies de Naples sur la scène continentale. Avant de rejoindre Patrice Bernier, Sid, le fouillis de Lionel Messi là, avec son futur, il a été sanctionné par Paris parce qu'il est parti en Arabie Saoudite sans avoir demandé la permission ou sans avoir eu l'autorisation, parce que la permission a été demandée, mais c'est laissé rester lettre morte. Excellent moyen de te garder du levier, c'était le club, ça, de ne pas répondre à un courriel, un texto, ou bref, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je présume que ce n'est pas un télégramme pour Lionel Messi et son entourage. Il s'en va où?
Mais tout d'abord, il écorne son image. Je pense qu'il y avait un gros travail de l'institution barcelonaise pour essayer de cacher l'aspect commercial de la machine Messi. Mais un jour, on a dû mettre un prix à ce que ça voulait dire d'avoir Messi dans son effectif, et on a décidé que c'était plus possible. D'où maintenant son arrivée au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on voit aussi que Lionel Messi, quand on est l'un des plus grands athlètes de tous les temps, il y a aussi beaucoup d'argent derrière. Et cette visite commerciale en Arabie Saoudite, je pense que vient un peu écorner ce qu'on on veut cacher de tout ce qui est le Messi Inc. Alors que on a souvent opposé ça à Cristiano Ronaldo. On est dans une fin de carrière qui est compliquée. Et puis aujourd'hui, en fait, on ne sait pas du tout qui est prêt à payer et pourquoi sur Lionel Messi. Sur la table, il y a des offres qui ont toutes des arguments intéressants. Et que ce soit le Barça, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit la MLS et même encore une fois le Paris Saint-Germain. Aucune idée. Le père de Messi a communiqué disant que on verra, on va tout étudier les options, mais certain que ceux qui mettent un gros chèque auront sûrement un plus gros avantage.
Ouais, et c'est l'ironie de toutes les ironies que le Paris Saint-Germain s'offusque qu'un joueur mette des intérêts commerciaux avant les intérêts sportifs de se pointer à l'entraînement au lendemain d'une défaite. C'est la parfaite ironie parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris que le Paris Saint-Germain, c'est davantage un projet commercial, business qu'un projet sportif, ben bref, je présume que vous sortez d'en dessous d'une roche.
Ouais, de 12 ans de... 12 ans de...
Ouais, c'est ça, je ne vais pas mettre un chiffre dessus, mais tu viens de le faire. On peut mettre un chiffre sur bien des choses concernant notre prochain invité. On va en profiter maintenant pour parler avec Patrice Bernier qui nous rejoint et qui a été honoré à sa juste valeur, lui, contrairement à Vinicius, samedi soir dernier. D'abord, Pat, très heureux que tu sois avec nous pour lancer cette nouvelle saison de Loin de s'en foutre et tes impressions là, quelques jours après cet hommage que tu as eu à la mi-temps du match la fin de semaine dernière.
Ouais, merci. Merci, les gars. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et puis pour samedi, ben ouais, c'était spécial. C'était un retour au Stade Saputo, on va dire à juste titre. Encore en titre de joueur, là, juste officiellement intronisé par rapport au mur de la renommée, mais surtout avec les autres joueurs. Puis c'est chez moi. C'est un endroit où j'ai vécu beaucoup de grands moments. Et puis le sentiment d'appartenance qui est un peu plus fort. Donc j'ai d'autres distinctions, mais celui-là, il me touche plus parce que c'est où j'ai fait une grande majorité de mon parcours et laisser, si on veut dire, cet héritage et surtout celui avec l'Impact de Montréal et le CF Montréal.
Est-ce que tu as croisé des gens, Patrice, au cours de cette soirée-là? Tout le monde, de manière générale, là, j'ai l'occasion de te côtoyer au stade depuis quelques temps. Les gens veulent toujours prendre une photo, te serrer la main. Est-ce que tu as croisé des gens que tu t'attendais pas à voir pour cette soirée-là?
Tu croises des anciens coéquipiers qu'on ne se voit plus on se voit plus régulièrement. J'ai vu Darko Kolić, j'ai vu Lloyd Barker. C'est sûr, déjà là, même en plus... dans le panel du côté de c'est-à-dire les autres diffuseurs des matchs, il y avait Greg Sutton et puis bon donc ceux-là surtout, je pense qu'Asun aussi était là, Camara, donc tu croises quelques personnes. Puis je sais que j'avais beaucoup de textes du monde qui viennent plus aussi souvent mais qui étaient venus au match pour ce match particulièrement, donc c'était bien de revoir. J'ai vu Massimo Dioia, qui est directeur technique FC Loro. Donc, j'ai pris du plaisir de revoir des gens qu'on se croise plus aussi régulièrement et qu'on a vécu des moments, surtout en portant le maillot et les couleurs de l'Impact de Montréal, CF Montréal maintenant.
Tu savais que ça s'en venait, cette distinction, Pat, mais en même temps, j'imagine qu'il y avait une surprise à cette annonce. Comment tu as pu gérer tes émotions lors de ton discours? J'ai senti parfois un petit tremblement dans la voix. Qu'est-ce que ça fait finalement de recevoir cet honneur?
Je l'ai su, ça fait quelques temps, là, ça faisait comme un mois l'avance que j'avais, parce qu'il fallait coïncider que je sois au stade, et donc en même temps, ça donnait qu'on diffusait le match, donc j'ai donné les dates que j'allais être là, à stade, à travailler. Je dirais que entre samedi c'était touchant, mais j'ai vécu plus le moment jeudi à la conférence de presse, parce qu'ils avaient sorti la vidéo que je n'avais pas vue, et puis là, c'était réel, avec Gabriel qui sortait les anecdotes et tout, donc ça retouchait, replongeait dans des situations du passé, de où est-ce qu'on a, j'ai commencé avec le club, au Centre Côte-Robillard, au Stade Saputo. Ça, c'était particulier de remercier les gens qui ont fait partie du parcours, mes parents, ma femme, mais surtout à ce moment-là, c'était Zoran Janković, qui c'était mon premier entraîneur. Beaucoup de monde peut-être ne le connaissent pas, mais ceux qui sont dans le monde du soccer très restreint, amateur, savent qui Zoran Janković est. Et j'ai pas eu la chance aussi de remercier Mike Moreto, et puis Aldo Ricciuti, parce que il s'occupe des joueurs, puis on est tous un peu des prima donna, les joueurs, on va pas se le cacher, on a tous des demandes, des requêtes. Mike Moreto, si je veux me rappeler, moi, il y avait d'autres équipementiers qui étaient prêts à nous fournir des souliers, mais moi, je voulais jouer avec des Nike, et fait que j'étais compliqué. Puis Mike Moreto, Et il m'avait dit l'auto, j'ai dit Adora, je veux rien savoir de ça. Moi, je veux juste jouer avec des Nike. C'était Air Zoom, c'était Luis Figo, c'est là à l'époque. Et finalement, un moment donné à l'entraînement, il m'est arrivé avec une boîte. Il m'a donné une boîte de Nike. Et moi, je pensais pas, je m'étais dit, bon, je suis un jeune, il va se plaindre. Il dit, non, tu m'as demandé de suivre, je te donne le jeune. Là, il dit, mais il faut que tu les portes, hein. Faut que tu les, quand on va dire portes, faut que tu performes. Donc, je vais toujours me rappeler qu'ils étaient prêts à Aldo, à l'époque maintenant, qui était plus l'impact en 2012 MLS. Toujours prêt à aller above and beyond, par-dessus tout, pour les petites choses qu'on demande. Donc, ce sont des personnes qui sont dans l'ombre, que souvent, j'ai pas la chance de remercier, parce qu'on remercie souvent les coachs, les coéquipiers. Mais ça, c'est des personnes qui étaient là 24 heures sur 24, puis peu importe ce que tu demandais, ils trouvaient une façon où ils se démerdaient pour trouver quelque chose pour pallier ta demande.
Ouais, et il y a Daniel Pazzi aussi qui, d'un point de vue administratif, fait des miracles au CF Montréal. Pat, tu me tends une perche, par contre. Que ce soit en Europe ou que ce soit ici, avec l'Impact de Montréal pendant que tu étais là comme joueur, peut-être aussi pendant que tu étais dans le staff comme adjoint, tu n'es pas obligé de mettre un nom à l'anecdote. Tu peux le faire si ça te convient, parce que nous, ça va nous faire plaisir d'entendre ces histoires-là. Le gars qui avait les demandes les plus weird, que ce soit pour son équipement ou des trucs dans le vestiaire, c'était qui?
Les demandes les plus weird, c'est une bonne question parce que... Wow! Mais il y a toujours des gars qui ont des requêtes à la dernière minute. Puis, tu sais, c'est bien que tu as mentionné Daniel Pazzi, parce que Franco Subrani aussi, puis eux autres, c'est d'autres gars dans l'ombre. Que les gars, c'est comme des billets de stationnement. Des billets de stationnement de police là qui dépayent, puis c'est comme ah ouais, je fais quoi avec ça? Ou des requêtes, ah ouais, là, j'ai oublié ça, est-ce que tu peux aller chercher? Puis ils sont obligés d'aller quasiment à l'épicerie ou au centre d'achat. Et c'est quand je dis que ces gens-là, ils vont above and beyond. Puis c'est bien que tu as mentionné Daniel Pazzi, parce que quand j'ai signé mon contrat en 2012, moi, je m'en allais quelque part, puis je l'avais signé, puis j'étais chez moi. Puis je pouvais pas l'envoyer par fax. Fait que lui est venu de Saint-Léonard en plein après-midi venir chercher, récupérer mon contrat. Puis je me sentais mal parce que moi, je pouvais pas me déplacer pour aller le remettre au club. Puis j'avais donné des bouteilles de vin parce que je sentais comme, OK, là, lui, je le sors de sa journée qui est pas supposé travailler. Il est venu chez nous. Mais c'est comme je dis, des requêtes, oui, il y en a, là. Mais comme j'ai dit, ces gens-là, Aldo Ricciuti, Franco Subrani, Mike Moretto... À l'époque, dans les années USL et Ligue, les gars, c'était Mike Moretto. Juste pour dire qui Mike Moretto est, c'est que toutes les positions dans le club qu'il y a, ce que Franco Subrani fait, ce que Daniel Pazzi fait, ce que le préposé de l'équipement fait, ce que le placement, lui, il faisait seul. Lui, il trouvait des appartements, il trouvait des équipements, des souliers de soccer, il trouvait des frigidaires. C'est lui qui faisait les placements à l'hôtel. Puis des fois même, je suis pas surpris que c'est peut-être lui-même qui aidait les joueurs au niveau de leur contrat, parce que pas tout le monde avait des agents, puis pas tout le monde comprend la réalité. Donc c'était ça dans le temps, Mike Moretto puis Edo. Mais une requête particulière, non, je m'en rappelle pas précisément, ça me vient pas, mais oui, il y en a toujours. Puis quand tu te dis tout le monde, je peux te nommer les noms, tu sais, je vais pas vous dire ce qu'ils font, mais que ça passe de Nacho Piatti à Didier Drogba à un jeune, que ce soit Balou, ces gars-là, ils savent qu'il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Même si des fois, c'est comme, qu'est-ce qu'ils me demandent là? Mais ils le font parce que les joueurs, psychologiquement, on a besoin d'être bien. Puis ils vont au-dessus de les tâches et les responsabilités qui leur sont demandées par le club avant tout.
Oui, et juste pour conclure, tu parlais de Daniel Pazzi. Pour la petite histoire, à l'époque où moi je travaillais au club, j'étais son locataire à Daniel Pazzi, en haut de chez lui. Et je me souviens, des fois, je le voyais prendre des espressos à 10 heures le soir. Puis je disais, mais Pazzi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah là, j'ai les visas de Nelson Rivas à gérer. Là, je vais être debout toute la nuit. Il faut que j'envoie les documents demain. Ça montre à quel point, en coulisses, là, il y a le glitz, il y a le glamour, il y a le travail aussi sur le terrain d'entraînement, mais en match. Mais au-delà de l'équipe, c'est phénoménal le travail qui est abattu. Pat, je veux te ramener sur la réalité de cette semaine, des prochains jours. Il y a eu un match, on enregistre l'émission mercredi matin. Donc hier, il y a eu la victoire face à Toronto en championnat canadien. Il y a un autre match qui s'en vient face à Toronto en championnat, en MLS le week-end prochain. Ta relation, j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour à Toronto à quelques reprises avec toi au cours des derniers mois. Ta relation avec la ville de Toronto, c'est quoi? Parce que tu as vécu des moments extraordinaires, des moments catastrophiques en club. Tu as vu des beaux et des moins beaux moments en sélection, parce qu'avec le Canada, vous jouez beaucoup de matchs au BMO Field. C'est quoi ta relation avec la Ville-Reine?
Tu sais, ma relation est quand même bonne avec les gens de Toronto, là, malgré que sur le terrain, j'ai toujours voulu les battre. Là, mais quand je vais là-bas, je côtoie toujours des gens, puis ils apprécient. Tu sais, disons que c'était l'adversaire qu'on détestait jouer contre, mais qu'on a un respect parce que, j'étais Canadien aussi. Mais tu sais, je vais toujours me rappeler, justement, l'année que j'ai pris ma retraite, mon dernier match. Ben, en fait, le dernier match de la MLS, la Coupe MLS, l'Association canadienne m'avait invité, puis la MLS, pour me redonner un cadre. Et là, c'était à Toronto, si vous vous rappelez, là, c'est 2017, donc c'est la finale Seattle-Toronto, une réplique. Moi, je me dis, puis je devais passer à travers les spectateurs, puis je me dis, bon, je sais pas comment on va me traiter. Puis finalement, les gens, ils applaudissaient, et puis j'étais comme, OK, je savais pas comment le monde allait prendre ça, mais finalement... J'ai réalisé que bon, j'avais le respect de mon adversaire et des partisans. Et donc à Toronto, j'ai toujours eu une bonne entente, si on dit, hors du terrain avec les gens de Toronto. Et surtout, bon, avec l'équipe canadienne, on a joué beaucoup de matchs là-bas. Donc, tu es aussi associé en étant un représentant du Canada. Donc, à ce niveau-là, jamais eu de mauvaise situation avec même les spectateurs les plus arrosés, parce qu'on a vu quelques frasques sont arrivées hier. Pendant le match. Mais non, quand je vais là, je vais croiser mes anciens coéquipiers de l'équipe nationale, mais qui ont joué à Toronto, Dwayne de Rosario, Julian de Guzman et compagnie. Donc, j'aime la ville, j'aime juste pas jouer contre les équipes de cette ville.
Pat, capitaine entre 2014 et 2017, comment tu transmets cette rivalité au nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que tu leur parles très rapidement, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive seulement dans la semaine? Et qu'est-ce qu'on leur dit justement pour qu'ils comprennent l'importance de ce match en particulier?
Moi, je me rappelle que tu sais, quand tu vas à l'entraînement, les joueurs ils comprennent pas tout à fait Toronto-Montréal. Ils comprennent qu'il y a une dynamique qu'ils entendent, on leur dit, mais... Tu vas à l'entraînement, puis tu sais, c'est là que le joueur local ou celui qui est habitué à la rivalité t'en met là. Tu dis, là, on joue contre Toronto. Là. C'est quand même, tu sais, dans tous les entrevues, tu es tout le temps en train de dire, ben c'est la rivalité. C'est une équipe, s'il y a un match qu'on ne veut pas perdre, c'est contre eux autres. Et là aussi, ben il y a le facteur de faire expliquer à certains qui comprennent pas la rivalité pourquoi elle est peut-être plus tenace, et il y a un peu plus de venin. C'est que, tu sais, la réalité, moi, j'ai dû expliquer, là, il y a le francophone, il y a l'anglophone, il y a la ville de Montréal qui était la ville économique, qui est devenue Toronto. Après ça, j'ai dit, ça va un peu plus loin, il y a aussi la réalité sur d'autres sports. Et c'est de la partager pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de plus particulier de jouer cette équipe-là. Que les partisans, eux autres aussi, c'est un match qui, tu dois mouiller le maillot. Je dirais un peu plus ce match-là. Que même si on perd, il faut surtout pas perdre en ayant été déclassé par l'effort, par la volonté d'aller battre cette équipe-là. Mais à mon époque, 2015, 2016, 2017, c'est devenu un peu plus facile parce qu'il y avait Altidore, Bradley, Jovinko. Donc, c'était comme l'équipe qui dépense beaucoup, les riches, les vilains de ce bord-là de Toronto contre Montréal. Même si, bon, nous, on avait quand même Didier Drogba et Nacho Piatti qui étaient bien rémunérés, là, mais... C'était le transmettre à l'entraînement puis de match, puis là les joueurs comprennent, et là ça se transmet aussi de les gens qui sont dans le club. T'as les Poddy, les coachs de ce monde qui connaissaient la rivalité, qui mettaient une petite sauce de plus, et quand ils la jouent puis quand ils voient les partisans, ben ils comprennent qu'il y a quelque chose d'un peu plus particulier, que tu dois y mettre un peu plus de cœur dans ce match là c'est pas que les matchs sont, ils en mettent pas, mais celui-là tu peux pas sortir, tu sais, on le voit, les agressions et tout, c'est plus particulier, c'est beaucoup plus costaud, les matchs contre Toronto.
Ouais, ça fait penser, c'est dans All or Nothing, Sid, si je me trompe pas, que Mikel Arteta demande au photographe d'Arsenal, c'est avant un match contre Tottenham, de venir expliquer ce que ça représente pour lui, un photographe qui est là depuis des dizaines d'années.
Et qui a fait un discours extraordinaire.
Ouais, t'avais pas le choix, là. T'avais pas le choix d'au moins y aller d'un effort qui avait de l'allure. Patrice, tu nous parles de tes souvenirs face au Jozy Altidore, Michael Bradley et compagnie. Ça, c'est une réalité bien différente de celle de l'Impact à tes débuts avec le club lors de ton premier séjour au début des années 2000 et encore plus au tout début de l'histoire du club. En fin de semaine, face à Toronto, on va célébrer 30 ans d'histoire. Toi, t'es ou ton tout premier souvenir de l'Impact de Montréal, c'est quoi?
Mon premier suivi, ben, ça s'appelait pas les Toronto FC, c'était les Toronto Lynx. Et il y avait beaucoup de joueurs, parce que dans l'époque, c'était beaucoup de joueurs de Toronto qui étaient dans l'équipe. C'était l'époque où chaque équipe était vraiment représentée par les joueurs qui viennent de la province ou de la ville même. Donc, tu sais, il y avait les Lyndon Hooper à ce moment et compagnie. Il y avait les débuts d'un certain Paul Staltieri. Ils ont commencé là, ces gars-là, les premières minutes. Et nous, de Montréal, c'était vraiment un peu comme quand on va en championnat canadien, équipe du Québec, équipe Ontario. C'est comme la rivalité continuait à ce moment-là. Et dès qu'on a affronté au Centre Courbéliard, c'était déjà piqué parce que c'était prouvé qui sont les meilleurs joueurs au Canada, de quelle ville ils proviennent. Et ben là, c'était de dire, eh ben, à Montréal, au Québec, on fait un peu quoi de mieux qu'à Toronto. Puis le match que je vais jamais oublier, mais il y a deux matchs. Il y a un, c'est le 6-0 au Stade Saputo. Parce que je me rappelle que quand on a joué le match là-bas, Marco Schalibom avait un peu fait beaucoup de rotations et il avait eu beaucoup d'échos négatifs en voulant dire qu'on ne prenait pas ça au sérieux, le championnat canadien. Et là, ben, il a mis la grosse équipe, si on veut dire. Puis je me rappelle bien, Divaio n'était pas supposé commencer, c'était Paponi. Puis Divaio est rentré, puis il a marqué ses buts. Puis Justin Mapp a été excellent. Mais c'était de vraiment leur donner cette leçon que, tu sais, ils n'étaient pas de classe ce jour-là. Ils étaient juste là comme figurants. Puis le deuxième, ben, clairement, il y a Toronto FC, Montréal, série éliminatoire 2015. J'ai purgé l'année sur le banc. Puis là, en plus, Mauro me dit, ben, tu vas commencer. Je dis, ah, il n'y a pas meilleur match pour vraiment se préparer. Ça, c'est des matchs que j'ai pas vraiment besoin de préparer. Puis j'avais vu le dernier match de la saison, donc j'avais vu un peu ce qu'il faisait pas aussi bien. Puis là, de marquer, puis de faire marquer Didier Drogba, c'était spécial. Puis je vais finir sur un troisième, c'était gagner la Coupe là-bas, à Toronto, en 2019. Ça, il n'y a rien de mieux que de gagner chez ton adversaire, dans un endroit qu'on avait beaucoup de difficultés à gagner. De le trophée, surtout qu'on était une équipe sous-estimée avec Wilmer Cabrera. On était un peu fin de saison, ce qu'on n'était plus dans les séries. Et de sortir le trophée là-dessus, ça, c'est spécial. Puis ceux qui voient les photos, vous voyez, j'étais avec Sam Piette et vous avez vu les matchs hier, les gars, ça représente encore plus particulièrement quand tu es chez le home turf, comme on dit, de l'adversaire. Ça, c'est les moments les plus magiques avec l'Impact et maintenant ben, le CF Montréal.
Pat, globalement sur ces 5 derniers matchs, à quoi tu attribues les nouvelles performances du CF Montréal?
À quoi j'attribue? S'il y a plusieurs variables, c'est un, ben, ils sont plus appliqués, ils sont plus agressifs. Je dirais que le facteur que Aufort est en avant de l'attaque, tu sais, il y a Bryce Duke qui arrive et qui donne une touche à Ariel Assiteux, mais Aufort aussi, c'est que lui, même s'il ne marque pas beaucoup, il déplace de l'air. Il est constamment en train de mettre du pressing. Il est dans les duels. Il est peut-être brouillon techniquement, mais il apporte une agression qui manquait au départ, qui fait que l'équipe adverse avait le ballon en défense, puis il prenait le temps, puis il montait, puis il faisait des passes millimétrées. Donc, il y a cette affaire-là qui sont plus agressifs, ils ont plus de pressing. Ça permet à la défense de mieux gérer. Et puis là, ben, vous l'avez vu, Bryce Duke, qui est arrivé dans les pochettes, a libéré Herrera. Ou du moins, on voit qu'il y a une complicité qui se forme sur le flanc droit. Et c'est pas pour rien qu'Herrera a ses meilleures performances depuis que Bryce Duke est là. Et je dirais qu'avant tout, puis Mathieu Choignard, on peut pas se le cacher. Là, à chaque fois qu'il a été dans l'axe, même quand il perdait, il avait une présence, il apportait quelque chose. Et là, que maintenant, il est régulièrement là, ben, on le voit, les dividendes qui lui reviennent individuellement, mais aussi pour l'équipe. Il est le box-to-box peut-être qu'on cherchait ou qu'on a perdu avec Ismaël Koné et qui marque et qui contribue à sa manière. Donc, toutes ces facettes-là ont apporté à solidifier cette identité et que les joueurs exécutent un peu mieux ce qui se faisait à l'entraînement qu'on n'arrivait pas à mettre en match.
Pat, très rapidement, deux questions pour terminer. Je te ramène sur le côté un petit peu plus historique des célébrations des 30 ans. Des joueurs que tu as côtoyés, ça peut être un joueur que tu as vu aussi lorsque tu étais plus jeune. Celui qui serait, selon toi, le plus sous-estimé de l'histoire de l'Impact de Montréal, peut-être du CF Montréal aussi, si c'est sur les dernières années, ce serait lequel?
Sous-estimé. Wow. Joueur que. Ben, je dirais que moi, j'ai adoré Lloyd Barker. Okay? Beaucoup de monde ne l'entendent peut-être pas au camp parce qu'il était un attaquant qui est devenu latéral droit, souvent latéral gauche aussi. Et il a réussi à s'adapter. Puis il avait une personnalité extraordinaire. Ceux qui le côtoient, vous voyez, Lloyd Barker, c'est un gars qui, tu croyais que c'est une star hollywoodienne. Mais je dirais qu'il a vraiment contribué, sur le terrain. Je pense même nous, pour les jeunes, parce que c'était quelqu'un qui était très accueillant, facile d'approche. C'est pas que les autres l'étaient. T'sais, Nick puis Mauro, ils étaient des personnalités, comme on était comme un peu peut-être comme un jeune quand il arrivait, il voyait Patrice Bernier, bon, je sais pas si je peux lui parler. Lloyd, c'était vraiment le bon vivant. Et mais je pense aussi ses performances, il a contribué grandement, puis il jouait à des postes qui sont jamais vraiment mis en valeur, c'est les latéraux. Surtout à cette époque-là où ce que ben, ta job, c'était de défendre. Et lui, il l'a très bien fait, sachant qu'il était un attaquant pour une grande majorité de sa carrière, pas en formation. Il a commencé comme attaquant international jamaïcain et puis il est devenu latéral droit et gauche. Je donnerais à Lord Barker une fière chandelle de quelqu'un qui a peut-être pas autant de mérite qu'il devrait en avoir.
Autre fait marquant de la carrière de Lloyd Barker, Sid, quand je l'ai vu, moi, s'entraîner à, c'était au Centre Claude Remiard, si je me trompe pas, ou c'était peut-être après un match, il mettait tout le temps des petits coussins, il portait des Copa Mondial, il mettait des petits coussins sur le côté de ses souliers. À ce jour, j'ai aucune idée pourquoi, mais j'avais commencé à faire la même chose parce que c'était ça que les joueurs professionnels faisaient, puis j'avais pris des notes. Je faudrait que
tu... Est-ce que tu jouais mieux après ça?
Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est peut-être ce qui fait que je suis devenu défenseur latéral. Par contre, ça, c'est un autre dossier. C'était peut-être un petit peu plus mis en valeur à ce moment-là. Je veux juste terminer, Pat, avec une dernière question. On va basculer vers les sujets chauds. Cédez-moi pour répondre à des questions qui nous ont été posées sur Twitter, mais il y en a une que je dois absolument te poser. C'est celle de Simpap qui dit « Si vous aviez à ramener un ancien joueur de l'Impact de Montréal ou du CF Montréal dans l'équipe, actuel, ce serait qui? Les joueurs retraités sont éligibles et à leur prime. » Là, je ne sais pas s'il faut évacuer Didier Drogba de cette équation-là, mais tu irais pour qui, toi?
Ben, tu sais, c'est facile. Les gens vont penser que je vais dire Nacho Piatti, mais je ne vais pas mettre Nacho Piatti. Puis je vais aller avec quelqu'un qui est moins en vue, si on dit, de quelqu'un qui était moderne. Là. Parce que c'est sûr, Nacho ferait une grande différence dans cette équipe-là. On me dit un, je dirais peut-être deux. Okay? Nevio Pizzolito. Parce que je pense que ça prend des gens en arrière, des fois, qui cassent la baraque. Et je pense que Nevio Pizzolito, lui, il envoyait des messages très clairement, physiquement, avec l'adversaire. Personne se laissait imposer. C'est pour ça que la complicité de Gabriel Gervais et Nevio Pizzolito. Et l'autre, il faut que je donne une fière chandelle à mon ami Ali Gerba. Parce qu'à l'attaque, si quelqu'un s'est marqué des buts en très peu de temps, ben c'est Ali Gerba. Lui, ça ne prenait pas beaucoup de buts. Si vous regardez ses statistiques, il a comme 20 quelques buts en 60 matchs pour le CF Montréal. Regardez le ratio but par match. Il n'y a pas grand monde qui a ce ratio but-là. Même Nacho, je pense qu'il a comme 77 buts, mais en 100 quelques matchs. Mais regardez bien le ratio but. Il avait la présence physique, mais il avait surtout la capacité de mettre le ballon au fond du filet. Et il n'avait pas besoin de beaucoup de chance. Donc, c'est deux joueurs que... Moi, je ferais revenir. Tu vois, j'ai revenu en arrière, plus loin que l'ère MLS de deux joueurs, je pense, qui apporterait du bien à cette équipe.
Ouais. Pourtant, c'est deux ères qui auraient pu se chevaucher parce que je serais curieux de voir c'est quoi le ratio match joué, but marqué de Justin Brown, qui est celui qu'on a choisi de faire jouer à la place d'Ali Gerba en 2012, alors qu'Ali était toujours payé et restait à la maison. Ça, c'était mon petit commentaire éditorial. Patrice, pendant qu'on en profite pour te dire un énorme merci d'avoir pris du temps pour nous. Félicitations encore une fois, ton nom est sur le mur de la renommée, c'était inévitable, mais qu'on ait décidé de le faire immédiatement après tes 5 ans de retraite qui sont arrivés l'automne dernier. Je pense que ça envoie un message qui est à la hauteur de ce que tu as fait pour le club, la province, le sport au Québec. Merci beaucoup, Pat, on se reparle bientôt.
Ouais, merci les gars, c'est toujours un grand plaisir.
Je pensais pas parler de Justin Brown aujourd'hui.
Non, du tout. Mais d'ailleurs, c'est marrant.
Tu te souviens-tu de Justin Brown?
Non, pas en tout.
Sa deuxième touche était très souvent un tacle.
Par contre, je me souvenais vraiment qu'Ali était sur le payroll, en bon français. Et c'est vrai que j'aurais cru d'ailleurs que c'était sa réponse pour le joueur sous-estimé. Je crois que vraiment, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire de ce club.
Bon, OK, on va y aller. On a plusieurs questions qui nous ont été posées sur Twitter. D'ailleurs, vous pouvez toujours le faire avec le hashtag LDSF. On vous lance une perche à chaque semaine. Vous avez été plusieurs à avoir mordu à l'hameçon. Là, c'est dans le sens le plus positif du terme. Tiens, on va commencer par la question que j'ai posée à Pape, celle de Simpap. Je te la repose juste pour te donner du temps pour réfléchir si jamais tu n'as pas déjà une réponse en tête. Si tu peux ramener un ancien du 11 Montréalais dans l'équipe actuelle, ce serait qui? Les joueurs retraités sont éligibles et à leur prime. Est-ce qu'on est obligé pour ce débat-là d'enlever Piatti et Drogba? C'est trop facile?
Je te dirais même d'enlever Drogba avant tout, parce que je pense que la question de Simpap est super intéressante, mais le à leur prime vient un petit peu débalancer les réponses.
Ben, quoi que Marco Di Vaio, moi je le prends pas dans cette équipe-là, ça marcherait pas.
Et c'est là où c'était intéressant, c'est vraiment d'aller un peu plus loin justement sur l'équipe actuelle. Je crois que quand tu vois Shinozo au fort et ce que le club met en place, le meilleur prototype de joueur pour faire ce style de jeu-là, c'est bien Didier Drogba. Donc pour moi, la réponse était assez facile. Et surtout, c'est l'écart qu'il peut avoir entre le remplaçant et le joueur potentiel. Par exemple, tu vois, moi l'an dernier, je t'aurais dit qu'un Nesta, par exemple, à son prime, aurait fait plus de bien, je pense, qu'un Didier Drogba. L'an dernier, je pense que ça aurait été ma réponse. Cette année, j'ai le goût de penser que de répondre à Marco Di Vaio au cours de l'année. J'aimerais que le club me fasse dire Marco Di Vaio. En ce moment, je vois vraiment mal comment répondre autre chose que Didier Drogba.
Ben moi, je vais le faire avec grand plaisir, répondre autre chose. Ça va être solidement champ gauche, mais comme toi, tout ce que je vais te dire là dans les prochaines secondes se base sur le actuel. Daniel Lovitz.
Okay, c'est plus qu'actuel, c'est même réaliste.
Non, mais je ramène, il aurait jamais fallu qu'il parte, et l'an dernier, je sais pas t'es où, si justement Mathieu Choinière se met à jouer dans l'axe, des fois, plutôt que sur le côté. Mm-hmm. Je suis en train de réécrire l'histoire, j'en suis conscient. Tout, mais quand je regarde Nashville, qui a payé 100 000 $ d'argent d'allocation pour Daniel Lovitz. J'ai eu l'occasion de poser la question à Gary Smith, le coach de Nashville. Je lui ai demandé, tu sais, quand tu considères, là, tu regardes à rebours ce que vous avez payé pour, il dit, ces mots-là. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé partir.
C'est bon, ça.
Tu sais, tu n'as jamais trouvé. Là, c'est Lapalainen, je suis désolé, mais je suis toujours pas convaincu. Je me demande si un jour je le serai. C'est le seul profil que tu n'as pas. Il y en a. Tu sais, Zachary Broguiard, par exemple, joue sur le côté droit et pas toujours titulaire. Tu l'utilises à quelques sauces différentes, mais tu sais que c'est ce profil-là. Tu n'as pas ce profil-là à gauche, point.
Pour tout ce qu'il apporte, est-ce qu'un Oyongo ne vient pas un peu plus à t'apporter que Lovitz?
Oui, mais c'est moins champ gauche que Lovitz, fait que c'est pour ça que j'ai choisi Daniel Lovitz.
C'est bon.
Voilà. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je pense que Oyongo allait toujours vouloir partir anyway. Donc peut-être que t'aurais été... Je suis un peu amer. Daniel Lovitz, qui soit parti, là, ça avait été géré tout croche, cette histoire-là. Bon, on y va avec la question de Tony Bruno, maintenant. On pense quoi du Project 8 qui a reçu, ça c'est pour le nouveau championnat féminin qui verra le jour ici au Canada, et c'est une ligue canadienne, donc pas une équipe de NWSL qui jouerait comme en MLS. Des équipes canadiennes jouent dans un championnat qui, à la base, est américain. On pense quoi de Project 8 qui a reçu l'approbation de Canada Soccer? 3 équipes confirmées et rumeurs d'un club au Québec.
Excellente nouvelle pour le soccer féminin. Il y a beaucoup trop de talent ici au Canada et particulièrement au Québec pour qu'il n'y ait pas de ligue professionnelle. C'est un combat de longue durée. Amy pourra nous en parler. Et puis, je pense qu'il y a un gros travail qui est fait par Ian Wilkinson et aussi une équipe au complet de voir, par exemple, que des grosses banques sont déjà prêtes à appuyer la Ligue. C'est une excellente nouvelle. 2025.
Je sais avoir une équipe féminine professionnelle au Québec avant qu'il y ait une équipe de CPL?
Pour moi, c'est l'erreur originelle qu'il faut absolument qu'elle corrige. Ce qu'a fait la CANPL, pour moi, n'est pas acceptable, même si c'est ça qu'ils ont fait comme décision.
En même temps, ils voulaient mettre une équipe, ça arrive sud de Québec à Lévis. Dans la catégorie « tu connais pas ton marché » ou l'endroit où tu vas aller t'installer, c'est difficile à battre.
Mais quand on voit le nombre de joueurs québécois qui sont dans la ligue,
sais, mais je veux dire, ils connaissent pas la province.
Non, effectivement. Et puis il y a eu des ratés aussi. Il y a des équipes qui ont été reprises du côté de la CANPL. Tout n'est pas parfait, mais je pense que pour la symbolique, une équipe à Québec est très importante. Et j'espère que d'ici 2025, avec le bassin qu'il y a dans la Ligue 1 québécoise, qu'on sera capable de mettre en place une équipe professionnelle ici.
T'as bien dit une équipe à Québec ou tu voulais dire au Québec?
Moi, peu importe.
OK, ben moi, c'est pas peu importe. C'est oui, à Québec, oui, je suis 100%, non. 100% d'accord avec toi. Question du Dr Foot, maintenant, qui est toujours assez polémiste sur Twitter.
Et tu sais quoi? Et qu'on va saluer, parce que c'est l'un des plus insistants sur notre retour du balado. Donc, Dr Foot, merci.
Et il est insistant aussi sur le congédiement de certaines personnes. Heureusement, je pense que ça nous concernait pas trop. Mais Bob Bradley ou Greg Vanney, qui perdra son poste en premier, le coach de Toronto ou coach du LA Galaxy?
coach de la Galaxy, forcément, Vanney, parce que le directeur sportif, président du club, a lié son futur à une qualification en série. Donc, elle a dit qu'il démissionnerait de son poste s'ils ne sont pas qualifiés. Donc, je pense que d'ici là, il
faut rouler une tête avant de faire rouler la tienne.
Exactement.
Jean-François, maintenant, nous dit pourquoi est-ce qu'il y a trois. Bon, on va régler ça rapidement. Pourquoi est-ce qu'il y a trois semaines sans match pour le CF Montréal au mois d'août? J'ai trouvé ça intéressant et je trouvais important de répondre à cette question-là parce que la League's Cup qui s'en vient, une compétition format Coupe du Monde, si on veut faire ça simplement, avec des groupes de trois, le CF Montréal va se retrouver avec Pumas, un club mexicain, et le DC United, club de MLS. C'est les clubs du championnat mexicain, les clubs de MLS qui se rencontrent avec une formule qui va aller jusqu'au bout avec un vainqueur à la toute fin. Ça va prendre tout le monde de court, cette compétition-là, cet été. Et c'est une compétition qui va être annuelle à partir de cette année.
Je pense que la machine de promo va embarquer au courant du mois de juin et on va pouvoir justement se faire une tête par rapport à cette belle compétition qui, je pense que c'est un rêve de Don Garber de pouvoir avoir cette compétition-là. Et je pense que ça va nous aider, ça va nous animer durant l'été et surtout qu'avec le rééquilibrage qu'il y a entre les deux ligues, je pense que c'est bon pour la rivalité entre la Liga MX et la MLS.
La récurrence, pour moi, est intéressante. Bref, pour répondre à la question, c'est qu'il y a cette compétition-là et on a une fenêtre d'un mois où il n'y a pas de compétition en MLS. Les équipes de MLS seront en action, évidemment. Moi, je trouve intéressant le fait que ça va revenir à chaque année avec des équipes que tu connais moins, mais que tu vas pouvoir redécouvrir à chaque année. C'est moins comme la Ligue des champions CONCACAF où tantôt c'est une équipe du Panama, tantôt c'est une équipe du Honduras, puis c'est un peu difficile de garder le fil. Et le fait que c'est dans une fenêtre fermée. Tu sais que ça commence tel jour, un mois plus tard, ça se termine avec un champion. Donc, tu es capable de rapidement te dire, ben oui, j'embarque pour un mois, je regarde les matchs ou non. Mais je pense qu'au fil des ans, ça va créer un engouement qui sera quand même assez appréciable. On termine avec la question d'Émile. Émile Archambault qui nous dit « En 2022, le CF Montréal avait 6 joueurs à la Coupe du Monde. » Bon, je ne sais pas s'il y était encore des joueurs du CF Montréal rendus là parce qu'on préparait leur départ par la suite pour certains, mais on comprend la question quand même. Émile nous demande « Combien de joueurs actuels pourraient être à la Gold Cup cet été? »
3. Waterman, il sera. Un gardien, il sera. Et Mathieu Chouanière, il sera.
Samuel Piette, non?
Samuel Piette, pour moi, il y a vraiment une vraie question pour lui, pour sa santé. Est-ce que c'est une bonne décision de faire la Gold Cup
avec
son retour de blessure? Parce que normalement, ça coïncide un petit peu avec son retour au jeu. Et c'est, pour moi, c'est lui qui prend la décision et non pas John Herdman, façon de parler, parce qu'il est déjà dans la liste de John Herdman s'il veut y être.
Il y a quelqu'un, j'oublie le nom, désolé, mais vous allez vous reconnaître. Il y a quelqu'un qui nous avait demandé, est-ce qu'on peut officiellement dire que Mathieu Chouanière est devant Marc-Anthony Kay? Dans la hiérarchie, est-ce que tu y réfléchis comme ça ou c'est juste en regardant Mathieu Chouanière que tu te dis ce serait une faute professionnelle de John Herdman de ne pas l'amener dans le groupe?
Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas de Canadien qui aura autant de présence sur l'équipe de la semaine MLS. Mmh. Il est probablement même le meilleur buteur au niveau canadien, uniquement, en tout cas celui qui crée le plus de chances. Il est impliqué dans toutes les statistiques. D'ailleurs, c'est une fatigue parce que je veux tweeter des tableaux et il y a toujours Mathieu Chouanière qui est tout en haut de toutes les statistiques possibles, imaginables.
Jusqu'à la semaine dernière, là, juste pour remettre en contexte pour les gens qui ne sauraient pas, c'était ça, c'est avant le match de la fin de semaine. Meneur pour les buts, pour les passes décisives, pour les tacles réussis, pour les tirs, puis les tirs cadrés.
Oui, et puis quand tu faisais l'interception, plus dégagement, plus tac, alors comme c'était encore lui qui était le meneur, ça peut être changé avec Rudy Camacho, milieu défensif là hier, mais pour le coup, Mathieu Chouanière, pour moi, c'est un incontournable. La position de gardien, il y en aura un. Est-ce que, parce qu'en fait, pour répondre à la question de notre auditeur, la loyauté est très importante pour Herdman. Donc pour moi, c'est pas que...
Ouais, mais hey, ça, la loyauté, mais attends, tu peux aller te réhabiller quand tu as laissé Samuel Piette sur le banc pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Parler de loyauté, ça fait 10 ans que tu es là. Puis il y a des matchs où tu es complètement déclassé, tu fais rentrer des jeunes.
100% d'accord. Mais pour moi, le concept de loyauté, c'est plus pour être présent dans la liste. Parce que quand Henry, par exemple, est le meilleur exemple de... Donnel, Henry, t'as aucune raison d'être dans...
C'est la présidente. Je vais t'avouer, je m'attendais à une anecdote des Bleus. Là.
Non, pour le coup, t'as aucune raison d'être objectif d'être dans la liste, hormis justement cette loyauté-là. Et c'est pour ça que moi, je place pas le débat entre Kay et Chouanière, mais sur la valeur intrinsèque de Chouanière, dernière, il a sa place. Pour le gardien, par contre, là encore une fois, la loyauté va rentrer en compte. Bantémis était dans la liste pour le Qatar. S'il est retour en santé, est-ce que par rapport à ce vécu avec l'équipe, il prendrait la place, entre guillemets, de Jonathan Sirois, qui montre sa valeur? Donc moi, je pense que vraiment, du côté d'Erdmann, il y a vraiment ce concept-là de loyauté.
Tu sais que ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas d'émission de Loin de s'en foutre. Quand la dernière fois qu'on s'est parlé, ou à peu près, on parlait du retour de James Pantémis et compagnie de la Coupe du Monde au Qatar. Puis là, on parle de James Pantémis qui prendrait peut-être la place de Jonathan Sirois en équipe nationale canadienne pour la Gold Cup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben quelques mois. Et ça nous a fait grand, grand plaisir de vous retrouver. Vous étiez plusieurs, on le disait en début d'émission, on lui demandait quand ça revenait. Ben voilà, c'est fait. Vous avez eu votre première émission de Loin de s'en foutre. On sera de retour la semaine prochaine. On vous invite à nous poser vos questions sur le hashtag LDSF via Twitter. Et ben d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. On se parle la semaine prochaine.